Culture Club. Culture Club. Entrez dans l'intimité des clubs qui ont fait l'histoire de la musique. Culture Club. Sixième épisode avec Le Bergain, le club qui a su dire Nine.
Marcel Detman relance une nouvelle fois Music for the Macy's, l'album de Depeche Mode. C'est au moins sa cinquième écoute de la journée. Il se poste à la fenêtre et scrute le ciel berlinois. Il est né ici, en 1977, du côté est du mur. Il connaît par cœur chaque recoin de cette ville austère, étrange, fascinante. Ici, rien ne bouge, pas même les feuilles quand il y a du vent, dit un proverbe est-allemand. Mais nous sommes en 1989 et les choses sont justement en train de bouger, peut-être même un peu plus vite que prévu. Les manifestations se multiplient. Dans la partie ouest, Ben Clock pose le même album sur sa platine. Lui aussi suit l'évolution des rassemblements et des contestations. Ben et Marcel ne se connaissent pas encore. Mais l'accélération de l'histoire va se charger de faire les présentations. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'effondre.
Archive INA, 2 novembre 1989.
À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Et là, sur le pont de Bornholmer, 28 ans après, les deux côtés se retrouvent.
Les deux jeunes garçons se rencontrent un peu plus tard. Ils parlent de leur passion commune pour Depeche Mode, des nouvelles boîtes de la ville et surtout de leur découverte de la techno. Cette musique qui envahit peu à peu les nuits de Berlin. Le duo est formé, l'Est et l'Ouest réunifiés. Ils vont devenir les plus célèbres DJ du plus célèbre des clubs de Berlin et même du monde, le Bergain. Une sorte d'étoile noire de la nuit des années 2000, une boîte à l'alchimie incompréhensible, une mystérieuse usine à rêves et à fantasmes.
Culture Club.
L'épopée du Bergain débute en 2004, après la fermeture du club gay Osgood. Décidés à rouvrir une boîte, les propriétaires explorent le quartier situé près de la gare. L'arrondissement Friedrichshain-Kreuzberg est un condensé de l'histoire allemande. Nommé d'après l'empereur de Prusse Friedrich, il est l'un des seuls à rassembler des anciens districts de l'Est et de l'Ouest. On y consomme équitable, on y mange vegan et on y écoute de l'électro entre deux séances de piercing. Tout ce qui fera l'atmosphère si spéciale, à la fois indolente et rebelle, du Berlin réunifié, est concentré ici. Une ancienne centrale électrique se dresse au-dessus de ses rues. Un modèle d'architecture stalinienne. Imposante, austère et surtout vide. L'endroit peut accueillir environ 1500 personnes. L'équipe de l'ancien Osgood s'y installe et choisit un nouveau nom en remixant le nom du quartier. Kreuzberg, Friedrich, Hein, Bergheim, c'est adopté. Dès le premier soir, la techno résonne sous les 18 mètres de hauteur sous plafond. Le club ouvre du vendredi au lundi matin sans aucune interruption. On peut y entrer à 14h, minuit ou 6h du matin. La file d'attente ne cesse de s'allonger. Les clubbeurs venus de toute l'Europe patientent jusqu'à 4 ou 5 heures dans le froid berlinois et dans le plus grand silence. Car, un peu plus loin, un verdict incertain les attend. La légende de la boîte se fonde bien évidemment sur une musique, une atmosphère, un lieu hors norme, mais aussi sur un lieu dans le lieu, la porte. C'est ici que règne Sven Markart, un colosse barbu, tatoué et percé, entièrement vêtu de noir. Cet homme, passionné de techno, se souvient avoir ri pour la dernière fois un matin de janvier 2004, en voyant une vieille dame glisser sur un trottoir verglacé. Il le confie le plus sérieusement du monde à la presse, et sa concierge confirme. J'ai même longtemps cru qu'il était sourd-muet, dit-elle, car je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Le ton est donné. Pourtant, Sven n'est pas muet. Du moins, sait-il prononcer au moins un mot. Nine. Nine. Voilà ce qu'entendent généralement les clubbers, sans vraiment comprendre la raison de ce refus. Car le Berghain échappe à tous les schémas de la nuit. Contrairement au Studio 54, il ne recherche pas particulièrement les people. Contrairement au Palace, le club berlinois ne privilégie pas les looks spectaculaires ou les physiques particulièrement sexy. Et l'ambiance n'est pas non plus comparable à la file d'attente du tunnel, sous haute surveillance. Alors sur quoi se fonde la sélection drastique du Berghain? C'est une alchimie, un esprit, se contente de répondre Sven Markarth. L'entrée de la boîte alimente tous les fantasmes. Un jeu de société intitulé Berg 9 voit même le jour. Sur le web, les tutos pour entrer se multiplient, les conseils contradictoires aussi. Attention au noir, mais évitez les couleurs. Ayez l'air sympa, mais pas trop. Pas trop hystérique, mais pas trop banal non plus. Attention aux chaussures trop propres. Tentez le look SM, mais discret. N'essayez surtout pas de parler allemand et taisez-vous si vous êtes français.
Tu vois, je pense que le Berghain, faut que ça reste authentique.
Genre, dès que Sven, le videur, a l'air mystique.
Ouais, c'est lui, ça.
On s'est bien pissé dessus en le voyant.
Dès qu'il nous a laissé rentrer direct, on a compris ce que les gens pouvaient dire sur le Berghain sur Internet.
Certains se vantent d'avoir franchi le barrage sans vraiment fournir de preuves formelles. Car à l'intérieur, le secret est la règle absolue. Téléphone et appareils photo sont interdits après une fouille très stricte. Ce qui se passe au Berghain doit rester au Berghain. Sven, le viking techno, vient de détourner le regard, c'est le moment. Entrons. À l'intérieur, trois étages. Les DJ avec des résidents de haut vol comme Detman, Clock ou Steffi mixent dans la salle principale. Au sous-sol, les dark rooms réservés aux hommes. Une autre ambiance, disons, plus directe, moins dansante. Au dernier étage, le panorama. Un bar avec une atmosphère plus apaisée et une musique plus house et disco. Les trois espaces ne sont pas étanches, tout le monde peut passer de l'un à l'autre. Pas de carré VIP ici. Tout est permis sous ce microclimat unique, mélange d'hédonisme pur et de respect de chacun. Certains viennent danser 12 heures d'affilée en buvant du jus de pomme, d'autres alternent drogue et sexe sur la piste. Le tout sans videur embusqué dans les recoins sombres. Finalement, la sélection de l'entrée prend tout son sens à l'intérieur. Le mélange de gamins techno, de clubbeurs quinquagénaires, de gays, d'hétéros et de créatures nocturnes forme un vrai public, conscient que tout est possible sans jamais verser dans l'incontrôlable. Si le Berghain est une véritable expérience qui échappe aux règles de la nuit, ce n'est pas seulement grâce au public. L'autre atout, c'est le son. Parfait, puissant, colossal. Grâce à des enceintes spécialement réglées par Detman, la sonorisation du Berghain n'a pas d'équivalent. Les énormes caissons de basse peuvent abriter un danseur. L'alchimie est alors complète. Ce lieu monumental semble fait pour la techno et à l'inverse, la techno semble avoir été créée pour remplir cette cathédrale industrielle. En clair, la musique reste ici l'essentiel. Et à force de parler du physio, des backrooms et des anecdotes invérifiables, on l'oublie trop souvent. Le Berghain a contribué à la diffusion de la musique électronique la plus exigeante, comme aucun autre club. Après les débuts à Détroit ou Chicago, la techno plante son drapeau à Berlin. Preuve de sa réussite artistique, le club a même fondé son propre label. Les maxis sortent sous le nom de Oskutton, en hommage aux racines gays du Berghain. Studio 54 avait lancé sa marque de jeans, le label Factory avait créé son club, l'Hacienda, mais aucun club n'avait encore lancé sa propre maison de disques. Cette ligne artistique, immuable, a façonné la légende du lieu. La célèbre revue américaine Le New Yorker consacrera même une de ses couvertures au Berghain. Difficile de faire plus chic. Mais aucune légende n'est immortelle. Surtout quand il s'agit de clubs. Le prestige du Berghain commence à se faner légèrement. Deviendrait-il un vulgaire Macumba de Bavière ? Au milieu des années 2010, la file d'attente devant l'ancienne centrale ne désemplit pas. Mais les clubbeurs historiques, eux, recherchent d'autres soirées, d'autres lieux. 18 euros l'entrée, et cela ravit les Parisiens ou les Londoniens. Mais ça reste un peu cher pour Berlin. Il faudrait un nouveau Berghain, entend-on souvent. C'est la rançon de la gloire. Pourtant, personne ne peut deviner quel sera l'avenir de la boîte. Rien n'est joué. L'expérience Berghain reste encore gravée dans de nombreuses mémoires, aujourd'hui confinées, mais avides de sortie. Le club berlinois est pour l'heure silencieux et vide, comme un château hanté. Il pourrait rouvrir ses portes pour accueillir des expositions. Moins mythiques, moins excitants, certes. Mais là, au moins, on sera sûr de pouvoir rentrer.
Culture Club.
À bientôt pour une nouvelle virée nocturne. Et n'oubliez pas la règle absolue édictée par Groucho Marx. Je ne voudrais jamais d'un club qui m'accepterait comme membre.
Culture Club, un podcast de Jack, le média musique de Canal+. Retrouvez tous les épisodes en écoute sur MyCanal et les plateformes d'écoute en ligne. Vous avez aimé ? Ça vous a plu ? Abonnez-vous, laissez un avis et racontez-nous vos meilleurs souvenirs de club.